ensemble.
RFI, bienvenue si vous nous rejoignez, il est 10h à Paris, 9h à Abidjan. Les dernières informations avec vous, Gaëtan Plenet, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Dans ce journal, la valse des représentants du monde entier à Damas. Hier, c'est le ministre turc des Affaires étrangères qui est allé rencontrer le nouvel homme fort syrien, auprès duquel il a plaidé pour la dissolution des groupes armés kurdes de Syrie. Pas de gouvernement en France avant ce soir, 18h au plus tôt. Une annonce qui pourrait tomber donc en pleine journée de deuil national pour les victimes du cyclone qui a dévasté Mayotte. On va parler aussi de la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire qui élit ses représentants. Et puis en Chine, la purge continue au sein du Parti communiste. 56 cadres ont été poursuivis pour corruption depuis le début de l'année. Le chef de la diplomatie jordanienne attendu à Damas aujourd'hui. Il doit à son tour y rencontrer le nouvel homme fort de la Syrie, Abu Mohamed al-Joulani, le chef du groupe Ayat Tahrir el-Sham. Je dis à son tour, car depuis le renversement du régime de Bachar el-Assad il y a 2 semaines par la coalition de rebelles conduite justement par HTS, eh bien les pays du monde entier envoient leurs représentants pour prendre contact avec les nouvelles autorités. Hier, c'était le cas du ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Il s'est entretenu à Damas avec al-Joulani. Au menu des discussions, le retour des réfugiés et la levée des sanctions occidentales contre Ayat Tahrir el-Sham. Mais le ministre turc avait surtout une priorité, réclamer la dissolution des groupes armés kurdes de Syrie, Abla Junaidi.
Ankara demande à Damas de désarmer les YPG, les combattants kurdes qui évoluent de l'autre côté de la frontière. Alliés des Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique, ils sont qualifiés de terroristes par la Turquie. Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE à Damas et Ankara.
On sent bien que la Turquie est sensible aux appels occidentaux de ne pas créer plus de souffrances pour atteindre leurs objectifs. Et le ministre Fidan dit clairement, ça va dépendre de quels arrangements ils font à Damas. Si c'est satisfaisant pour la Turquie, très bien. Si ça dure trop longtemps, on va bien devoir prendre des mesures.
Désarmer les milices, c'est ce qu'ambitionne de faire le jeune gouvernement intérimaire syrien. Mais cela ne doit pas se faire par la force. Khaled Issa, envoyé spécial en France de la région autonome kurde de l'Est syrien, le Rojava.
Je pense qu'on peut, avec le dialogue, résoudre tous les problèmes entre les Syriens. Et j'espère que les autorités de Damas ne vont pas accepter la mainmise totale de l'État turc, un État voisin, mais malheureusement, elle convoite une partie du territoire de notre État syrien.
Pressé d'agir, le ministre turc, depuis Damas, a interpellé directement le futur président américain Donald Trump pour que Washington abandonne son soutien aux combattants kurdes.
Abla Junaidi, l'Iran, de son côté, n'a pas de contact direct avec les nouveaux dirigeants syriens. C'est Téhéran qui l'affirme ce matin et qui met en garde aussi. La Syrie ne doit pas devenir un repère pour le terrorisme. Les autorités iraniennes ajoutent toutefois soutenir la souveraineté de la Syrie alors que Téhéran était l'un des principaux soutiens du régime de Bachar al-Assad. Au moins 35 morts ces dernières 24 heures à Gaza après des bombardements israéliens, bilan de la défense civile locale. Des bombardements alors que le Hamas et 2 autres groupes palestiniens laissaient entendre samedi encore qu'un accord de trêve à Gaza était plus proche que jamais. Et ce communiqué de l'Oxfam, l'ONG affirme que sur les 34 camions transportant de la nourriture et de l'eau qui avaient été autorisés à entrer dans le nord de Gaza au cours des 2 derniers mois et demi, eh bien seulement 12 ont effectivement réussi à distribuer cette aide. La faute, nous dit Oxfam, au retard délibéré et aux obstructions systématiques de la part de l'armée israélienne. À Mayotte, 90% du réseau d'eau courante est à présent opérationnel. C'est ce qu'assure chez nos confrères de France 2, le ministre des missionnaires chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, sans pour autant détailler les communes qui en sont toujours privées après le passage dévastateur du cyclone Chido sur l'archipel français le 14 décembre dernier. Je rappelle le dernier bilan, au moins 35 morts, mais ce pourrait en réalité être beaucoup plus. Le président Emmanuel Macron s'est rendu sur place la semaine dernière. Il a annoncé un jour de deuil national partout en France. C'est aujourd'hui. Les drapeaux seront en berne. 1 minute de silence sera observée dans moins d'une heure maintenant dans l'ensemble des services publics du pays. Et puis l'ensemble des Français seront invités à respecter eux aussi cette minute de silence. En région parisienne, Asma Faradji, présidente d'une association d'étudiants mahorais, prépare cet hommage et espère le partager avec de nombreux Français.
Moi, comme je fais un peu de couture, je vais essayer de faire quelques écharpes pour qu'il y ait un maximum de personnes qui portent l'écharpe avec l'Ilang Ilang, qui symbolise Mayotte, qui était portée par les femmes leaders qui ont combattu pour que Mayotte reste dans la France. On essaye de réunir toutes les personnes qui sont sensibles à la cause Mayotte. Donc moi, étant présidente d'association, je vais proposer aux étudiants que nous suivons s'ils sont disponibles pour venir nous rejoindre pour cette minute de silence et ce moment de recueillement pour penser et se mettre en totale communion pour penser à Mayotte.
Des propos recueillis par Lou Ekal. Journée donc de deuil national pour les victimes de Mayotte ce lundi. Alors pas d'annonce du nouveau gouvernement avant 18h heure de Paris. C'est la présidence française qui le dit. L'idée d'une telle annonce en plein hommage aux victimes de l'archipel passait assez mal dans une partie de la classe politique ainsi que parmi les Mahorais. Le canal du Panama n'est contrôlé directement ou indirectement ni par la Chine, ni par les États-Unis, ni par toute autre puissance. La réponse du président panaméen après les propos de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le président américain élu a menacé de réclamer le contrôle du canal de Panama, affirmant que la marine et le commerce américain étaient traités, je cite, de manière particulièrement injuste, avec des droits de passage jugé ridicule. Donald Trump, qui affirme aussi vouloir, dès son investiture le 20 janvier prochain, a signé des décrets pour mettre fin à ce qu'il qualifie de délire transgenre. Il dit vouloir mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, mais aussi exclure les transgenres de l'armée et des écoles, sans préciser ici s'il parle des élèves ou du personnel des établissements. En tout cas, assure-t-il, la politique officielle des États-Unis sera qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire votaient hier à Abidjan, Bouaké et Soubré. Ils élisaient leurs 36 délégués au Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur, alors que la diaspora compte près de 4 millions de ressortissants dans le pays. Une élection sur fond de division au sujet des contributions de la communauté au fonds de soutien patriotique censé financer les volontaires pour la défense de la patrie. À correspondance à Abidjan de Benoît Almeras.
Ce fonds soulève des questions dans la diaspora burkinabé. Pour ce chef d'entreprise, l'argent collecté devrait aider les déplacés internes en priorité au lieu de soutenir l'effort de guerre contre le terrorisme. La méthode n'est pas bonne, rajoute un patron d'association. Il dit craindre le financement de cyberactivistes accusés de traquer les critiques des autorités de Ouagadougou. La dégradation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina suscite aussi l'appréhension. Nous ne voulons pas revivre le début des années 2000. Des dizaines de milliers de Burkinabés avaient alors dû quitter la Côte d'Ivoire dans un contexte de tension. Des positions jugées antipatriotiques chez les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, ce sont des apatrides qui les tiennent, dit un autre responsable associatif. Contacté par RFI, l'ambassade du Burkina n'a pas donné suite à nos sollicitations. La représentation diplomatique indique sur Facebook avoir collecté au moins 54 millions de francs CFA lors d'une journée de mobilisation. Benoît Almeras, Abidjan. RFI.
La Chine dénonce un acte provocateur et dangereux qui risque de déclencher une course aux armements. Déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères face au projet d'acquisition par les Philippines d'un système américain de missiles à moyenne portée appelé Typhon. L'armée philippine a annoncé envisager cette acquisition pour défendre ses intérêts maritimes alors que les relations sont justement tendues entre Manille et Pékin en mer de Chine méridionale. La Chine toujours et ce record, 56 cadres du Parti communiste chinois ont été poursuivis pour corruption depuis le début de l'année. C'est un quart de plus qu'en 2023. La croisade du président Xi Jinping contre les détournements de fonds s'intensifie. Lui qui, depuis son arrivée au pouvoir en 2013, s'est juré de purger l'appareil du pouvoir de ses éléments corrompus. Et ce par tous les moyens, Vincent Souriau.
La chasse à l'homme n'épargne personne. Tombé cette année, le ministre de l'Agriculture, limogé au mois de mai, exclu du Parti communiste en novembre et arrêté il y a une dizaine de jours. Le directeur général de l'administration des sports et président du comité olympique, ou bien l'ancien patron de la justice chinoise. L'agence anticorruption se conforme aux directives de Xi Jinping, qui lui avait demandé en 2022 de se concentrer sur les plus gros poissons. L'explosion des procédures vise aussi le secteur aéronautique. Plusieurs dizaines de cadres civils de la aviation et de la défense, mise en cause, y compris dans des domaines très sensibles comme la recherche et le développement de nouveaux missiles. Mais l'armée n'échappe pas à la purge. Deux anciens ministres de la défense inculpés, plusieurs généraux déchus de leur grade. Le pouvoir central veut remettre la main sur les contrats d'achat et de vente de matériel militaire où les pots de vin sont monnaie courante. On compte enfin quatre banquiers d'État mis en examen et certaines étoiles montantes prises la main dans le sac, comme l'adjoint au maire de Pékin, 52 ans, accusé accusé d'avoir accepté de somptueux cadeaux en échange de faveurs administratives.
Des précisions signées Vincent Souriau. Et puis le constructeur automobile japonais Nissan annonce dans un communiqué l'ouverture de négociations avec son compatriote Honda en vue d'une fusion au sein d'une holding unique. Ils espèrent ainsi pouvoir l'introduire en bourse dès août 2026. Reste à voir si Mitsubishi Motors, dont Nissan est le principal actionnaire, décidera ou non d'intégrer cette alliance. Ce devrait être tranché d'ici la fin du mois de janvier. Si la fusion devenait une réalité, elle constituerait le troisième constructeur mondial. Merci d'être avec nous sur RFI. À suivre Priorité Santé avec Caroline Paré.